Les paractualités. Alors aujourd'hui à l'émission, il sera beaucoup question de la prévention du suicide. C'est samedi prochain, le 10 septembre, qu'aura lieu cette journée spéciale. Pour l'occasion, je vais m'entretenir dans quelques secondes avec Alan Johnson, le directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Nous aurons également l'occasion de parler, et là je feuillette un petit peu, vous allez avoir un gros bruit de page parce que je pense que j'ai une page qui est restée dans l'ordinateur et que nous sommes en direct, mesdames et messieurs, et que c'est la joie, à moins que ce soit ce que vous ayez à côté de vous, mon ami. Je pense que oui, c'est exactement ça dont j'aurais besoin. Alors, voyez-vous, quand je vous dis que nous sommes en direct, c'est un début d'émission. Merci beaucoup, mon ami. La voilà, ma feuille de route. Alors aujourd'hui, oui, donc, le samedi 10 septembre, journée mondiale de la prévention du suicide. Également, nous parlerons des fameux ascenseurs à la station Rosemont qui sont encore, c'est encore en retard, les travaux ont du retard. Il sera question du manque de financement chez AutismeAid en à Saint-Fabien, un élan de solidarité pour le petit Anthony. Et puis aussi des nouvelles nationales et internationales. On reparle de la contestation sur la loi C-14, autrement dit sur l'aide médicale à mourir, qui ne désemplit pas. On fait beaucoup en ce moment, notamment en Colombie-Britannique. Et puis en France, son autisme raconté en BD. C'est une jeune femme qui a fait une bande dessinée pour raconter exactement ce qu'elle ressent. En Belgique, des parents d'un enfant autiste attaquent rien de moins que la Belgique. Et puis nous finirons cette émission par quelques nouvelles sportives et sans oublier l'organisme du jour. Aujourd'hui, je reçois en studio Antoine Perrault, qui est le nouveau directeur du RAC. Alors, la prévention du suicide, oui, c'est l'affaire de tous. Le 10 septembre prochain aura lieu la 14e journée mondiale de la prévention du suicide, JMPS. Et pour cette édition, l'Association québécoise propose le thème « Allumé » pour la prévention du suicide, pour encourager à cultiver cette flamme de compassion et d'ouverture à l'autre, en soutenant la cause, en aidant un proche, en prenant position et en réalisant des projets de sensibilisation dans les communautés. Quelques chiffres, si vous le voulez bien. En moyenne, depuis 2000, il y a 70 suicides par année, rien que dans la région de la Naudière, par exemple. Dans la MRC Les Moulins, on enregistre une quinzaine de suicides annuellement. C'est l'une des moyennes les plus élevées pour la région. Au niveau provincial, en 2012, la mortalité par suicide représentait 1,8% de l'ensemble des décès, un pourcentage beaucoup plus élevé chez les hommes, soit 2,9% que chez les femmes, avec 1%. Le Québec venait au troisième rang des provinces canadiennes, tout juste après le Nouveau-Brunswick et l'Alberta, ayant le plus haut taux de suicide. Juste avant de me tourner vers mon invité qui est déjà en ligne, je voudrais vous parler de Desercom contre le suicide. L'entreprise Desercom, forte de 400 ambulanciers, s'est associée à MLX Productions, réalisateur du documentaire « Sans toi », pour parler du suicide dans une vingtaine de municipalités à travers le Québec. Lors de cette 9e sortie à la patrie, tous les ambulanciers s'y étaient donné rendez-vous, de même qu'une vingtaine de résidents. 4 représentants de Virage Santé Mentale participaient à la soirée. Je regarde maintenant mon camarade, je pense que nous avons au téléphone Monsieur Alan Johnson, directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Bonjour Monsieur Johnson. Bonjour. C'est une date importante hein, que ce 10 septembre, ce sera la 14e journée, donc je le disais un peu plus tôt, mondiale de la prévention du suicide. Il y a encore tellement de jeunes qui passent à l'acte, hein, Monsieur Johnson?
Écoutez, moi, je vous dirais, chaque jeune ou chaque adulte ou personne âgée qui pense au suicide ou qui décède par suicide, c'est toujours une personne de trop. Ouais. Et je vous dirais, même si les adolescents ne sont pas nécessairement, je dirais, le groupe de la population le plus à risque, quand on regarde les statistiques, mais il reste que, pour nous, à Jeunesse J'écoute, quand un jeune nous appelle, nous contacte par clavardage ou par téléphone et qui nous parle de, je dirais, de sa détresse, de son impuissance, c'est sûr que c'est d'autant plus touchant parce que finalement, bon, ils sont jeunes, c'est notre avenir et on se pose tout le temps la question comment on peut intervenir.
Et alors, j'ai des chiffres sous les yeux, c'est qui nous révèle qu'un sur cinq, une personne sur cinq au Canada c'est-à-dire 22 personnes, a sérieusement pensé au suicide au cours des 12 derniers mois.
Oui. À chaque année, Jeunes et Écoute, on réalise un sondage auprès de notre clientèle, donc des jeunes là, de 13 à 18 ans. Ce sondage-là se fait là, en ligne. Et dans le fond, cette année, on avait certaines thématiques qu'on voulait davantage explorer et les résultats, ils sont effectivement difficiles parce que ce qu'on réalise, c'est que 22 % des jeunes qui ont participé à ce sondage-là nous ont dit que dans les derniers 12 mois, ils avaient pensé sérieusement au suicide. Pour certains, c'était que des pensées. Mm-hmm. Pour d'autres, ça allait jusqu'à planifier, identifier le moyen ou même se procurer le moyen. Moi, je vous dirais dans ces chiffres-là, puis parce que derrière les chiffres, il y a des jeunes. Hein, il y a des jeunes qui vivent des détresses immenses. Plus de la moitié le vivre en silence. Ça veut donc dire que pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, ils n'en ont pas parlé. Mm-hmm. C'est des jeunes, dans le fond, qui ne veulent pas mourir, mais c'est des jeunes qui veulent arrêter de souffrir, arrêter, trouver des solutions à des problèmes de santé mentale, arrêter de vivre de l'abus, que ce soit à la maison, à l'école, l'intimidation. Donc, c'est des jeunes qui devraient avoir une soif de vie, mais qui vivent des situations tellement difficiles qu'ils en arrivent à ne plus voir de porte de sortie.
Oui. Et alors donc, il y en a une porte de sortie, c'est la vôtre. Ils peuvent au moins prendre un téléphone et vous contacter. Hein. Ça, c'est le but de Jeunesse J'écoute.
Voilà. Alors, moi, je vous dirais, dans le fond, le message que nous, on veut donner dans le cadre de cette journée mondiale, puis qu'on va répéter au mois de février, parce qu'au Québec, on a aussi la chance d'avoir une semaine québécoise de prévention suicide, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos communautés, nos villes, nos villages, nos régions soient des milieux plus sécuritaires. Mm-hmm. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est d'en parler. Pour permettre, parce qu'on sait que les jeunes vont partager leur peine, leur détresse à leurs amis. Sauf que leurs amis, évidemment, en tant que jeunes, ils n'ont pas nécessairement les outils ou la connaissance pour aider. Donc, en parler pour que les jeunes puissent s'aider, en parler pour que les adultes, que ce soit les parents, les grands frères, les entraîneurs, on soit capable de percevoir les signes qui pourraient nous indiquer que notre jeune ne va pas bien et que peut-être il pense au suicide. Et aussi de faire la promotion des services. Parce que un jeune qui a des idées suicidaires, qui n'en parle pas, qui le vit en secret, si le jeune connaît les ressources dans sa communauté, va pouvoir faire cet appel à l'aide-là. Alors, au Québec, il y a la ligne 1-866 appel qui permet d'avoir à travers le Québec une aide 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et il y a aussi Jeunesse J'écoute que les jeunes peuvent contacter soit par téléphone ou par clavardage. Encore là, notre service est 24/7.
Et le numéro pour vous joindre?
Moi, je vous dirais, dans le fond, ce que je suggérais aux gens, c'est parce que même comme adulte, hein, souvent on a des inquiétudes, on aimerait intervenir et souvent on a l'impression de pas trop savoir comment le faire. Mmh. Alors, pour les adultes, il y a le site Internet de Jeunesse J'écoute parce que ce que le sondage nous a dit, c'est que les jeunes font énormément de recherches sur le web. Oui. Et ce qu'on espère évidemment, puis je pense que les adultes aussi ont fait ce genre de recherche-là, donc c'est de s'assurer de consulter des sites qui sont sécuritaires, des sites qui sont à jour. Donc, sur le site de Jeunesse J'écoute, il y a toute une section qui s'adresse aux jeunes, mais qui est aussi disponible pour les adultes sur le suicide. Alors, c'est quoi? Comment on peut prévenir? D'accord. Comment on peut dépister? Comment on peut aider? Et les jeunes qui veulent nous contacter peuvent le faire par clavardage ou par téléphone, qui est le 1-800-668-6868.
D'accord.
Et s'il y avait, je vous dirais, un message, surtout dans le cadre de cette journée mondiale de prévention du suicide, c'est lorsqu'on a des inquiétudes, hein, comme parents, comme entraîneurs, comme proches, on a cette espèce, des fois, d'intuition qui nous dit que ce jeune-là ne va pas bien ou ne va plus bien. Souvent, on a cette inquiétude-là. Et moi, je vous dirais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser directement la question.
Directement.
Directement, parce que un jeune qui, si on pose la question à un jeune, quand tu me dis telle chose, quand j'observe tel changement dans ton caractère, dans ta personnalité, ça m'inquiète. Est-ce que tu penses au suicide? Et il faut utiliser le mot
carrément.
Suicide.
Carrément.
Okay. Et là, parce que dans le fond, à partir de là, le jeune va pouvoir nous répondre oui, et là, on va pouvoir être empathique et l'aider. Et si jamais le jeune nous répond non, ce qui est une bonne nouvelle, ben ça veut dire que là, on va voir qu'est-ce qui ne va pas bien et on va pouvoir aussi l'aider.
D'accord.
Dans le fond, c'est de demander à quelqu'un qui vit énormément de détresse de trouver l'énergie et le courage de partager ses idées suicidaires. C'est énorme. Alors, si nous, comme adultes, on a cette inquiétude-là et qu'on fait le travail à la place du jeune en posant la question, on vient d'ouvrir une porte qui va permettre aux jeunes qui auraient des idées suicidaires de pouvoir l'exprimer. On vient de briser le secret et le tabou. Et à partir de là, ce qu'on met en place, c'est des moyens d'être.
Monsieur Johnson, ce sont des propos très éclairants que ceux que vous venez d'avoir sur les ondes de Canal M, et je vous en remercie. Je rappelle à Alan Johnson que vous êtes directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute et qu'il est très facile de vous contacter, notamment par votre site internet Jeunesse J'écoute. Merci pour votre beau travail et à bientôt, le plaisir de vous reparler.
Au plaisir, merci beaucoup.
Et pour finir avec ce sujet, je voudrais vous signaler qu'en dehors du 10 septembre, il y aura aussi les journées régionales sur le suicide et les aînés. C'est une mobilisation de tous les partenaires afin de favoriser la mise en place d'actions concrètes pour la prévention du suicide des aînés dans chacune des régions administratives du Québec. Il y aura aussi un grand forum de la prévention du suicide du 14 au 16 octobre également. Et il y aura la semaine... c'est déjà passé. Alors, on va oublier ça. Mais en tout cas, donc, soyez vigilants. Et comme nous l'a dit Monsieur Johnson, si vous avez le moindre doute sur un adulte ou sur un jeune, posez-lui carrément la question. À Montréal, ascenseur à la station Rosemont, c'est un titre qu'on ne préférerait ne pas avoir à lire, mais il y a encore du retard, au moins 3 mois de retard. Promis pour juillet, les nouveaux ascenseurs de la station de métro Rosemont ne seront accessibles qu'à la fin du mois d'octobre. Nous avons dû étanchéifier davantage pour prévenir des problèmes d'infiltration d'eau, ce qui a eu un effet sur l'échéancier, a d'abord confirmé Amélie Régis, porte-parole de la Société de transport de Montréal. En région maintenant, manque de financement chez Autismed en Estrie, malgré les besoins. Faute de moyens, la spacieuse résidence Autismed à Sherbrooke accueille seulement 9 enfants à la fois, et ce, les samedis et les dimanches. Et pour l'instant, il leur est impossible d'ouvrir durant les jours de semaine. Il y a vraiment un manque de ressources, un manque d'aide, des coupures dans les écoles, des coupures dans les services de santé et les services sociaux qui font qu'on est toujours laissé à nous-mêmes. Et c'est ce que déplore Hélène Kigley. Elle est elle-même la maman d'un enfant autiste, Thomas, âgé de 14 ans. Alors, elle apprécie d'un côté les moments de répit, bien sûr, offerts les fins de semaine et les congés fériés et les congés scolaires de la maison Autismed Estrie, mais de l'autre, elle est très vite rattrapée par la réalité, comme la plupart d'ailleurs des parents dont les enfants sont atteints d'autisme. Aujourd'hui, en ce 8 septembre, Autismed Estrie organise la 2e édition de Je roule pour l'autisme. L'activité de financement est une randonnée à vélo illuminée sur le réseau de la rivière Magog. Le coût pour y participer, à mon avis, n'est pas encore trop tard, c'est en milieu d'après-midi, est de $150. En région encore, un élan de solidarité pour le petit Anthony à Saint-Fabien. Anthony, qui est atteint d'une maladie rare, il souffre d'un syndrome néphrotique génétique. C'est une maladie incurable qui obligera le petit garçon à subir de la dialyse d'ici quelques années. Alors la communauté se mobilise pour lui venir en aide. Anthony s'est fait diagnostiquer cette maladie rare il y a près de 2 ans et depuis il doit prendre son lot de médicaments tous les jours. Notre médecin nous a dit que c'était le 7e cas qu'elle voyait au Québec. La maladie s'accompagne entre autres de cholestérol et de haute pression. Il peut faire des phlébites, il peut faire des caillots de sang. Anthony est un peu fatigué, plus vite que les autres, mais sinon c'est un enfant comme tous les autres, raconte sa maman Caroline Thériault, qui travaille avec son conjoint au marché Richelieu de Saint-Fabien. La tante d'Anthony, Marilyn Thériault, produit et met en scène un spectacle bénéfice original pour Anthony. Tous les profits seront versés à ses parents pour leur permettre d'accompagner leur petit garçon à Montréal pour les premières dialyses et pour apprendre à les effectuer eux-mêmes. Boîte à chansons en folie, c'est un spectacle musical romancé qui sera mis en scène par Noéline Thériault. Il y aura Mathieu Angléard, Annibelle Roussy, Julie Houde, Catherine Dastou, Martine Fournier et Marie-Lène Thériault. Ça aura lieu les 7, 8 et 9 octobre au Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Et les billets sont disponibles à la Coop de Saint-Fabien et la billetterie du Vieux Théâtre. Simplement, pour information, c'est facile. Allez donc sur Facebook et faites boîte à chansons en folie. Après Montréal, après les régions, vous le savez, on accueille tous les jours, on accueille une personnalité qui fait partie d'un organisme. Et aujourd'hui, j'ai devant moi, je vais retrouver ma petite page si vous le permettez, Antoine Perrault. Antoine Perrault, vous êtes du RAC, donc le Rassemblement pour les aveugles et les amblyopes du Québec.
C'est le regroupement.
Le regroupement.
Des aveugles et amblyopes du Québec.
Et vous êtes tout nouveau parce qu'avant, c'était Gérald Miller, que nous connaissions bien ici. Vous êtes nouvellement arrivé à ce poste-là.
Oui, ça fait 4 mois que je suis présentement en poste.
Alors, rappelez-nous un petit peu, quelle est la mission du Rassemblement?
Le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec compte 15 associations membres, dont 12 régionales.
Oui.
Et notre mission consiste à promouvoir et à défendre le droit des personnes aveugles et amblyopes partout au Québec.
C'est né dans les années 70, en 74, hein, je pense.
Tout à fait.
Alors, vous, qu'est-ce que vous êtes donné comme mission personnelle? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre avec le RAC à partir de cette année?
Le RAC est en plein changement actuellement. Donc,
oui,
on est en révision des statuts règlements. On
oui
est en création d'un plan d'action triennal. Les grosses missions du RAC, au-delà de la sphère politique où mm-hmm on a encore des enjeux de promotion et de défense de droits, ça va être beaucoup d'aller chercher nos membres en région, ça va être de les représenter,
oui,
ça va être d'établir beaucoup des modes de communication mm-hmm entre les régions pour vraiment faire du RAC un organisme qui représente l'ensemble des régions du Québec de manière très efficace.
Est-ce que vous avez l'impression, justement, que toutes les personnes qui souffrent de déficience visuelle, que ce soit partielle ou totale, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous connaît bien?
C'est sûr qu'il y a un gros travail à faire dans la sphère publique,
oui,
en termes de promotion. Je ne veux pas parler de connaissance ou de méconnaissance, ou de...
Uh-huh.
Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux particuliers qu'il faut amener dans la sphère publique, puis
uh-huh
c'est une des grandes missions du RAC. Puis oui, il y a un travail à faire à ce niveau-là, ça c'est évident.
C'est clair, hein?
Oui.
Antoine Perrault, est-ce que je peux vous demander comment vous êtes arrivé à la tête du RAC? Quel est votre parcours à vous?
C'est une bonne question. En fait, j'ai gradué en travail social.
Oui.
Spécialisation organisation communautaire et collective.
D'accord.
Mon expérience de travail, ça a été beaucoup autour de la mobilisation, de la défense de droits, de la promotion des intérêts.
Mm-hmm.
De différents groupes de population. Donc, je me suis promené. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Donc, l'éducation populaire, mais aussi la gestion en termes d'organismes et de projets. Donc, mm-hmm, recherche et financement, c'est sûr que c'est un incontournable.
Bien sûr.
La politique en communautaire aussi. Donc, c'est ce cheminement-là qui a fait que maintenant, j'occupe le poste de coordonnateur au RAC.
Alors, si quelqu'un voulait vous joindre, le moyen le plus facile, ce serait comment?
Le téléphone.
Le téléphone.
C'est encore le moyen le plus facile.
Allons-y. Je vous écoute et je prends note.
514-849-2018.
Alors, attendez. Oh, mon Dieu, qu'on va dire ça beaucoup plus doucement, mon ami, parce qu'on va se mettre à la place peut-être des gens en ce moment qui soit pitonnent sur leur ordinateur, parce qu'il y a, on le sait, voici que
donc,
la plupart des non-voyants, maintenant, s'organisent bien comme ça.
Je vous dirais 549.
Oui.
514, pardon.
Oui.
849. 2018.
D'accord.
Et beaucoup plus efficacement notre site web, évidemment, qu'on est en train de refaire.
Ah
on,
oui?
Oui, on est en train de refaire le site web. Donc, RAC, RAAQ,
d'accord,
.QC.ca.
D'accord. OK, parfait. Alors, les grands dossiers, là, maintenant.
Actuellement, là, nos gros dossiers. Comme je vous dis, c'est sûr qu'on est très occupé par révision de statut règlement.
Oui.
Et par plan d'action triennale, notre AGA
oui
arrive à grands pas. On parle quand même du 5 novembre, donc
mm-hmm
c'est beaucoup de temps.
Mm-hmm.
Sinon, nos gros dossiers actuellement, c'est l'accès à l'information.
Oui.
Parce que c'est un défi de tous les jours.
Mm-hmm.
On a actuellement beaucoup de dossiers à ce niveau-là. Donc, on veut s'assurer que, par exemple, les personnes puissent utiliser la vidéo description, qu'elle soit efficace, qu'elle soit accessible, ce qui n'est pas toujours le cas, dépendamment des fournisseurs Il y a aussi tout ce qui est transport. C'est sûr qu'un de nos gros dossiers actuellement, c'est qu'on se penche beaucoup sur les véhicules hybrides électriques.
Oui.
Qui sont silencieux, donc excessivement dangereux.
Oui. J'y ai pensé la première fois que j'ai vu ça. D'abord, j'ai failli... Heureusement que moi, j'ai mes yeux. Parce que j'ai tout de suite pensé à nos amis non-voyants. Parce qu'effectivement, ce sont des véhicules. C'est bien beau, l'électricité, mais ça ne fait pas de bruit.
Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Nous, on se base... C'est un des gros dossiers qu'on a actuellement parce que c'est un dossier qui est très d'actualité.
Mm-hmm.
On n'oublie pas que maintenant, le gouvernement québécois est en train de faire des promotions d'achats, qu'il y a des aides à l'achat. C'est quelque chose qui est de plus en plus... populaire.
Oui, oui.
Le problème étant que maintenant, ça fait que le parc automobile des véhicules silencieux grossit de jour en jour. Donc, c'est à chaque jour de plus en plus de menaces sur les routes.
Mm-hmm.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait, mais
qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'est pas pour mettre des petits grelots sur ces autos-là.
Présentement, en fait...
Non, mais...
c'est une bonne question. Présentement, il y a des choses qui sont faites aux États-Unis. Okay. Surtout, il y a des travaux qui sont en cours. Pour effectivement des standards qui forceraient les véhicules hybrides électriques à se doter de bruiteurs. Sauf que le Canada attend les États-Unis. Et les États-Unis attendent... Bon, et là, c'est une chaîne d'événements qui fait que le parc automobile grossit de plus en plus. Mm-hmm. Et il n'y a rien qui est fait parce qu'on attend.
Bon.
C'est un autre gros dossier qu'on a. Seulement.
Alors, Antoine Perrault, nous aurons l'occasion de nous revoir parce que vous viendrez assez régulièrement à cette émission-là. On aura l'occasion en ce moment-là d'aborder peut-être d'autres gros dossiers. Encore plus en profondeur.
Excellent.
Et puis, vous savez qu'ici à Canal M, ça nous fera toujours plaisir de vous recevoir. Et on espère bien aussi qu'au RAC, on pourra avoir une bonne visibilité pour que les gens sachent aussi que nous existons. Je pense que c'est important qu'on ait une belle coopération.
Tout à fait, on va travailler là-dessus au cours des prochains mois.
Eh bien, merci beaucoup. Antoine Perrault, je vous le rappelle, qui est coordonnateur au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et qui a eu la gentillesse de venir en studio pour vous rencontrer. Les actualités maintenant nationales et internationales. Retour sur la loi, sur la contestation de la loi C-14 sur l'aide médicale à mourir. Ça ne désemplit pas. Le mouvement est vraiment grossi de plus en plus, surtout grâce à l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, la BCCLA, qui a récemment lancé une campagne de financement pour payer les coûts de la contestation et elle constate que les offres de soutien abondent. Alors, selon la loi C-14, rappelons-le, deux formes d'aide médicale à mourir sont permises. Administration directe par un médecin ou une infirmière praticienne d'une substance provoquant la mort de la personne lorsqu'elle en a fait la demande, ou la remise ou prescription par un médecin ou une infirmière praticienne d'une substance que la personne peut s'administrer elle-même pour provoquer sa mort. L'association qui a déjà eu à contester devant la Cour suprême l'ancienne loi souhaite récolter de l'argent pour poursuivre la contestation en face du gouvernement de Justin Trudeau qui entend défendre sa nouvelle loi, estimant qu'elle établit un équilibre entre l'autonomie des personnes et les personnes les plus vulnérables. L'association et ses partenaires dans cette protestation, à l'instar de l'organisme Dying with Dignity Canada, déplore le fait que le précédent gouvernement conservateur ait dépensé 3,3 millions de dollars pour défendre l'ancienne loi, une dépense qu'elle juge faramineuse et inutile pour une loi qui n'aura causé que souffrance et affliction, au grand mépris de la Charte des droits de la personne. C'est pourquoi ces organismes critiquent le fait que le gouvernement actuel veuille adopter la même stratégie que l'ancien gouvernement. À l'international maintenant, les parents d'un enfant autiste bruxellois ont introduit lundi une action en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ils attaquent la Belgique pour non-respect des droits de la santé de leur enfant qui, faute de place en institution spécialisée, ne peut recevoir des soins adaptés, rapporte la RTBF, qui est le pendant de Radio-Canada. Chez nos amis belges, lundi, l'avocat de l'État fédéral a demandé un délai d'une dizaine de jours pour tenter de trouver une solution de placement qui pourrait intervenir à la fin octobre. La prochaine audience a été fixée au 14 septembre. En France, la différence invisible, le témoignage en bande dessinée de Julie Daché. Ça s'écrit D-A-C-H-E-Z, autiste Asperger. Elle est nantaise, elle est donc de la ville de Nantes, Julie Dachaise. Elle a été diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de 27 ans. Et depuis, elle use de tous les moyens pour expliquer ce qu'est l'autisme et en combattre les préjugés. Et elle vient de publier, avec Mademoiselle Caroline, une bande dessinée sur son expérience, où on la voit réagir à plusieurs situations. Par exemple, elle est, lorsqu'elle est dans son salon, lorsqu'elle part travailler, mais qu'elle n'aime pas trop son boulot, alors qu'elle aime mieux rester assise tranquillement, seule, avec Pitou à côté d'elle. On la voit aussi tout d'un coup s'asseoir comme ça, par terre, et puis regarder autour d'elle. On la voit, en tout cas, c'est vraiment tout ce qu'elle ressent. L'autisme qui passe par la BD. Et pour nous expliquer qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête de cette jeune femme qui, je vous le rappelle, a été déclarée autiste à 27 ans. Et puis aussi, en rafale maintenant, Info RAM, les groupes d'entraide et de soutien d'INCA, l'INCA, pour les personnes vivant avec une perte de vision et leurs proches, recommencent dès le 19 septembre. Les groupes sont offerts gratuitement à travers le Québec, en anglais et en français, par téléconférence et dans les bureaux d'INCA à Montréal. Il y a 5 groupes de soutien, 14 groupes d'entraide et un groupe de soutien pour proches aidants. Il reste encore des places pour les groupes suivants. Le groupe d'entraide le lundi après-midi de 14h30 à 16h, le groupe pour proches aidants le mercredi soir de 17h30 à 19h et le groupe de soutien le jeudi en après-midi de 13h30 à 15h. Pour vous inscrire, un numéro de téléphone, le 1-800 465-4622, le poste 232. Et puis enfin, en rafale toujours, ça y est, les Jeux paralympiques ont pris leur envol. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que tous les jours en ce moment, à 15h, en rediffusion à 18h, vous pouvez écouter Rio 2016, les Jeux continuent, avec Alexandre Coupal au micro. Aujourd'hui, Cindy Ouellet rentre en action. La basketteuse en fauteuil originaire de Rivière-du-Loup débute ce jeudi 8 septembre sa troisième participation aux Jeux paralympiques. Alors ne manquez pas cette information-là et tant d'autres. Cet après-midi, à l'émission Rio 2016, les Jeux continuent. Puis une petite nouvelle, tiens, savez-vous que vous pouvez faire du tennis en fauteuil roulant à Saint-Adolphe-d'Howard? Mais oui, alors allez donc peut-être à la mairie pour prendre quelques informations. C'était Clotilde Seille au micro, Mathieu Tessier en régie pour vous présenter les paractualités. Merci à Anne-Laure Janson qui est la recherchiste de cette émission. Passez une belle journée et à demain, 9h.